Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à lire. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un auteur très intéressant, un de ceux qui ne se lasse pas d'explorer les relations de couple, les amours oubliés, l'insouciance de la jeunesse à 20 ans, la jeunesse qui revient à 30, 40, 50 ans, peut-être la nostalgie aussi. Tiens, on va lui poser la question. On va voir tout ça avec lui. Il vient de signer le premier tome d'un diptyque intitulé Zoé Carrington. Bonjour Jim.
Salut.
Bonjour, merci d'avoir accepté cette interview. Alors, j'ai beaucoup de thématiques à aborder avec vous, mais on va commencer par le début. Comment est née l'histoire de cette Zoé Carrington?
C'est difficile de trouver le fil premier, la toute première piste. Comment c'est né d'un voyage à Londres? Donc, on peut voir à travers mes albums que je suis pas un grand voyageur, je reste dans un secteur assez proche de la France.
Rome, Londres.
L'Espagne, souvent aussi. Mais voilà, c'est parti de là. C'est parti. En fait, je peux pas en parler parce que c'est parti de l'idée même qui apparaît à la fin du tome 1. Et ça, j'ai trouvé que c'était une piste intéressante. Mais je l'ai écrit il y a 10-12 ans et je le repaufinais régulièrement. Je m'interdisais un petit peu d'y aller, en fait, parce que j'ai toujours l'impression qu'à un moment, il faut faire les grands livres de la maturité et je les repousse tout le temps. J'ai toujours des sujets qui me donnent envie et tout ça. Mais à un moment, je me dis, bon sang, j'avance en âge, il faut que je pense à ma grande œuvre avec des guillemets, mais à faire quelque chose de plus grave, de plus profond et tout ça. Et puis j'ai un fond, je crois que j'aime bien faire des choses légères dans lesquelles se glisse de la profondeur. Je suis pas encore tout à fait prêt à faire des choses profondes dans lesquelles se glisse un petit peu de légèreté.
Ouais, parce que
Voilà.
là, c'est vrai que ça a l'air léger comme ça. Alors, en deux mots, hein, l'histoire d'un jeune homme qui a une trentaine d'années qui reçoit une invitation pour un anniversaire d'une de ses amours de jeunesse oubliées, mais qui a été assez fantastique. Ils n'ont passé que quelques jours ensemble, mais ça l'a marqué durablement. On a l'impression que c'est léger, mais vous glissez plein de thématiques
Oui, 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 oui,
là-dessus.
oui, oui.
Il y a la thématique notamment des retrouvailles de l'homme et des femmes qu'ils sont devenus par rapport aux jeunes gens qu'ils étaient.
Mais la vraie thématique, en fait, pour moi, c'était le sentiment d'être un numéro 2, d'être pas un
Ah.
numéro 1. C'est d'avoir une femme qui nous aime, enfin, non, dont le personnage, Simon, tombe amoureux, que ça dure une semaine pour elle, et puis hop, elle passe vite à quelqu'un d'autre, et lui, il reste bloqué. Et il reste bloqué d'autant plus qu'elle part avec un homme qui a tout pour lui. Et ça, c'était un des sujets qui m'intéressait, en fait. Être un numéro 2, pas être la personne marquante dans la vie d'une femme. Je trouvais ça dur, pas souvent exploré. Et je me suis amusé autour de ça. Et je suis sur le tome 2 et je continue de creuser cette idée-là.
Oui, parce que c'est vrai que
Ne
si.
pas être assez bien, en fait. C'est comme si... Ne pas être assez bien pour le grand amour, de dire putain, mais ça pourrait être un grand amour, mais il faut être deux. Et si l'autre il veut pas, ben ça sera. Je vais me contenter. Il y a un personnage qui le parle, qui le dit à un moment, qui dit je vais me contenter de plein de petits amours accumulés. Est-ce que c'est aussi bien qu'un grand amour? Voilà, c'était ces questions-là, en fait.
Ce qui est intéressant, c'est que vous en avez fait le narrateur, Simon. C'est
Ouais.
par lui qu'on a tous les souvenirs, c'est par lui. Et en même temps, on a une image de lui, effectivement, il ne brille pas par rapport à son rival, qui lui,
Oh. Et puis
effectivement, tout.
c'est même pas un combat, c'est-à-dire qu'il essaie même pas, c'est-à-dire que c'est vraiment un vrai numéro 2 qui se voit comme un numéro 2 et on se sent, c'est un sentiment qu'on peut tous avoir sur plein de sujets et tout ça et qui a tout de suite les bras qui lui tombent quand il dit bah non, je veux pas me battre et il est formidable. Donc et qui assiste à l'histoire d'amour de celle qu'il aime mais avec quelqu'un d'autre.
Il y a du coup une forme de connivence avec le lecteur ou la lectrice, c'est-à-dire que nous sommes tous un petit peu des Simons.
Oui, c'est ça, ouais. Ouais, je pense. Ouais, je vais, enfin, je pense à ça et en même temps, j'y pense pas vraiment. Je pense à quelque chose qui peut me plaire à l'écriture et puis en essayant de trouver des choses, des ponts, des choses personnelles. En fait, si on rentre pas dans cette zone un peu personnelle, ça n'a pas grand intérêt. J'essaie toujours d'avoir dans l'histoire, de le rattacher à mes propres sentiments et de voir comment on peut essayer de parler directement aux gens. J'essaie de casser en fait le mur qu'il y a entre la page, les personnages enfermés dessinés sur la page et le lecteur, que ça soit qu'on vive le plus possible et ce que traverse le personnage.
Est-ce que c'est un album un peu comme Une nuit à Rome sur une forme de nostalgie de la jeunesse?
Je suis pas très à l'aise avec l'idée de nostalgie. Je trouve que c'est un sentiment un peu poison.
Ouais.
Par exemple, j'ai en projet quelque chose qui parle de nos années d'enfance, mais qui soit anti-nostalgique. C'est dire combien c'était pourri en fait quand on était amoureux. Il fallait aller dans une cabine téléphonique, mettre des pièces, on pouvait pas se parler, on savait pas où on était, on crevait de chaud dans les voitures, il n'y avait pas la clim. Enfin, j'ai envie justement de faire un truc un petit peu aussi anti-nostalgique. Après, forcément, quand on parle d'une ex ou de... Et puis bon, la vie nous rend forcément nostalgique. On perd tout le temps des choses. Donc, on perd les gens qu'on aime. On perd, même s'ils sont toujours vivants, les enfants qu'on a vus tout petits et qui grandissent et qui deviennent d'autres personnes et qui deviennent des adultes. Donc tout ça, il y a un fond comme ça. Mais j'ai pas l'impression que c'est mes sujets de fond, en fait. C'est peut-être quelque chose qui transpire en moi et du coup qui réapparaît. Mais c'est pas mon sujet principal.
C'est quoi votre sujet principal? Parce que moi, j'ai plein d'idées de thématiques. Il y a évidemment la relation, le couple, la Renaissance aussi, parce que Une nuit à Rome, ou là, c'est aussi ça. Quel est pour vous le propos qui sous-tend un petit peu le fil de votre œuvre?
Alors là, je ne saurais pas trop dire, en fait. C'est d'être proche des gens, essayer de trouver du vrai dans les relations entre les gens. Mais ça peut parler d'amitié, ça peut parler d'amour. Donc, ça serait quoi le point commun ouais, c'est d'être proche, c'est de regarder les gens. En fait, j'aime bien m'amuser aussi à mettre des personnages principaux qui sont un peu pourris. J'aime, enfin, de pas en faire des héros, des gens imbattables et tout ça. Dans Une nuit à Rome, le personnage quand même se barre, plante sa copine sur un quai de gare, c'est vraiment un truc de salaud. Dans L'étreinte qu'on avait fait avec Laurent Bonneau, le gars prend une photo, enfin un accident avec sa femme, elle est dans le coma, mais il est intéressé pour retrouver une femme qu'il a pris en photo le jour de l'accident sur son téléphone portable, ce qui est totalement pourri en fait. Et je me rends compte, mais c'est pas réfléchi, hein, c'est vraiment un
Ouais.
instinct, que souvent en fait j'ai fait des trucs sur des gens comme ça. J'aime bien que le lecteur puisse aimer quelqu'un quand tout part un peu de travers pour lui. Que ça soit pas gagné et que, mais voilà, c'est pas réfléchi. Mais s'il y avait, enfin, au moment du constat, ce qu'on est en train de faire, à chercher des
Bien
correspondances et des
sûr.
ponts, voilà, il y a ça aussi qui apparaît souvent dans le fil rouge, j'ai l'impression.
Ouais. Ouais, c'est vrai, je me souviens aussi de l'érection, par exemple. On est un peu dans ces thématiques-là. Ce sont beaucoup des personnages masculins, mais Zoé Carrington est une femme qui semble brillante. Alors, on va en apprendre plus, évidemment, dans le deuxième tome. Mais comment vous la voyez, cette Zoé, au départ, dans ce tome 1?
Je la vois comme une espèce de personnage sautillant, qui va vite, qui dit tout de suite ce qu'elle pense, et qui aime l'instant plus que la durée, et qui peut changer comme ça d'avis. Une espèce d'instabilité très cinématographique, très, très séduisante sur le papier, qui doit être un enfer à vivre, mais ça crée des beaux personnages, en fait. J'aime bien ça, ouais.
Ouais, parce que du coup, c'est vrai qu'elle est un peu comme son amoureux, elle a tout pour plaire, cette Zoé.
Oui,
Elle
oui, oui,
est
oui.
belle,
Ouais.
dynamique, elle est brillante,
Mmh.
elle est
Oui.
avocate, c'est un peu la femme parfaite, un peu
Oui,
borderline quand
un
même.
côté un peu tête à claque comme ça aussi. Mais elle est, mais voilà, ça évolue dans le récit et puis ça va évoluer plus vers une femme brisée. Et puis voilà. Puis après, c'est un plaisir de dessinateur aussi.
Ouais.
Oui, parce que c'est enfin depuis toujours les dessinateurs, ils aiment dessiner les femmes Et puis après, je sortais aussi d'une relation longue avec Marie de et il fallait que je crée un nouveau personnage. Donc c'était intéressant de faire un personnage plus petit, plus jeune, plus différent, en fait. Je voulais éviter d'être sur le même caractère. Et autant Marie, je l'ai travaillé à 40 ans, à 50 ans. Là, c'est plus 20, 30 ans. Il y a plus une espèce d'insouciance comme ça.
Vous l'avez travaillé. Comment vous travaillez justement vos personnages? Quel lien vous avez avec eux? J'ai des auteurs qui me disent parfois que c'est presque des amis qui sont très très tangibles, entre guillemets, qui font un peu ce qu'ils veulent. Comment c'est pour vous?
C'est un vrai truc qu'on écrit, c'est un cliché et pourtant on le vit comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on les entend parler, enfin on les suit, on sait ce qu'ils peuvent dire ou pas dire. Enfin, c'est l'impression qu'on les connaît un peu, qui guide un peu le récit. Donc c'est ça la question.
Ouais,
Je
c'est
sais plus.
ça.
Ouais,
Ouais,
c'est ça.
c'est comment est-ce qu'ils vous habitent et vous les habitez, vous?
Oui, c'est ça. Ouais. Oui. C'est un jeu. Après, moi, je débute avec Zoé. J'ai une relation donc beaucoup plus longue avec Marie. Donc, et ça, c'est plaisant d'avoir des caractères un peu différents et de passer de l'un à l'autre. Mais après, c'est des personnages, surtout Marie, que j'ai beaucoup suivi parce que je l'ai beaucoup dessiné aussi à côté. Je fais beaucoup d'illustrations. Donc ça. C'est assez présent même quand les albums sont finis, en fait. C'est ça qui est particulier. Souvent, les personnages sont enfermés dans une histoire. Là, ça a un peu explosé ça et ça a un peu débordé. Ce que je veux pas reproduire de la même façon avec Zoé, en fait, où je ferai très peu d'illustrations, pour garder une vraie différence.
Ouais, une vraie fraîcheur par rapport par rapport à elle. Et alors, je reprends ce que vous me disiez. C'est une histoire qui est restée un peu dans les cartons pendant longtemps. Et pourtant, à la lecture, c'est ce qu'on dit. On a une histoire très enlevée, très sympathique, avec plein de choses à dire et de fond. À quel moment vous êtes dit, c'est bon, ça y est, c'est prêt?
Ben, c'est après, en fait, j'y rebossais un peu tous les ans, j'y revenais, j'avais un problème de fin, j'avais pas ma deuxième partie. J'avais un bon début, enfin, je trouvais que c'était un bon début, et puis à force de rebosser, à un moment, il fallait, ben, quand j'avais fini Nuit à Rome, il fallait réfléchir à qu'est-ce que j'allais attaquer. Et donc, le fameux album de la maturité, où est-ce que je me donnais un petit peu de temps? Et j'ai plutôt privilégié le un petit peu de temps. Et j'étais un peu embêté avec ce scénario parce que justement, c'était le mois d'avant, c'était le mois d'il y a 10-12 ans qu'il avait écrit. Et puis, est-ce qu'à mon âge, je pouvais raconter des choses de trentenaire et tout ça? Et c'est vraiment, en fait, en rebossant le scénario, en le mettant dans l'époque, en faisant, par exemple, il y a un personnage, c'est une prostituée noire. Je me suis dit, bon, je peux pas aujourd'hui, c'était pas la même chose d'écrire il y a 10-12 ans. Et écrire maintenant. Donc je me suis dit, je peux pas la mettre noire, donc faut que je la mette blanche. Et puis en fait, au bout d'un moment, c'était plus mon personnage en fait. Et je me suis dit, bon, si je mets quelqu'un de couleur, ça peut être tel personnage. Mais c'était un fumeur de pétard. Je me dis, ben non, je vais pas mettre le noir, fumeur de pétard et tout ça. Et on se pose plein de questions aujourd'hui en tant que scénariste parce que ben, le monde change, il faut faire attention à plein de choses. Et puis je me suis dit finalement non, mais je la vois toujours noire. Je suis parti parce que de ce personnage parce que je voyais beaucoup de prostituées noires à Montpellier dans les rues quand je rentrais le soir et tout ça. Je vais rester là-dessus, mais par contre à l'écriture effectivement j'ai fait gaffe à ce que ça soit toujours respectueux, que le personnage soit intéressant et que ça soit pas une caricature en fait un peu à l'ancienne. Donc voilà, il y a aussi un travail comme ça qui fait que on l'écrit pas de la même façon aujourd'hui qu'il y a 10-12 ans. Et que ça évolue tout le temps et que ça enrichit en fait. Donc à un moment, je me suis retrouvé avec un scénario qui était bien enrichi et qui parlait aussi de l'époque, enfin qui en tout cas en tenait compte. Donc voilà.
Quels sont vos projets là? Vous bossez tout de suite sur le tome 2 ou
Ouais,
vous allez faire
je suis
autre
sur le
chose?
2, page 37, ça avance
Page
bien.
37.
En fait, c'est un
Ouais.
compte à rebours quand on fait un album, je sais pas les autres auteurs. Je sais que je vais faire 82 pages parce que tout le découpage est fait. Et je sais qu'à 41, je suis en redescente. J'aurais fait mon pic et après ça redescend. Donc là, je suis dans la montée, montée et après ça va, voilà. Mais là, j'ai mon petit planning, j'essaie de m'y tenir. Et puis voilà, non, c'est plaisant parce que je connais bien les personnages. C'est plus facile un tome 2
Ouais.
qu'un tome 1. C'est plus dur à écrire. En fait, les histoires, les scénaristes, on peut souvent avoir un bon début parce que quand on a un bon début, c'est un scénario qu'on continue. Ça va, c'est valable pour les films aussi. Mais si on n'a pas la fin, parfois on se dit, bon, ouais, c'est tout bien, on le fait quand même. Moi, j'aime bien que les fins soient bien. Donc, je passe du temps à trouver ce segment-là. Et quand je l'ai enfin trouvé, bon, ben voilà, je me suis dit, je pouvais me lancer. Et donc là, j'ai espèce de sentiment d'être avec des personnages que je connais bien parce qu'ils ont été déjà définis dans le tome 1. Et puis maintenant, bah c'est du jeu parce que c'est pousser un peu les relations, les scènes, les séquences et tout ça. Et puis, on parle d'une grande fête dans un manoir et ça, j'y arrive là. Je suis à la page où les personnages entrent.
Ah, ça
C'est
va être
marrant parce
chouette,
qu'on,
ouais.
ouais, parce qu'on le vit un peu avec eux. Enfin, en tout cas, on voit les étapes et tout ça. Donc,
Et le film, il y a un film que vous êtes en train de sortir.
oui, il y a
Est-ce
un
qu'on
film
peut
que je suis en train de
en dire un
sortir.
mot?
Oh, oui, carrément. Ça s'appelle Bel Enfant. Il y a une page Allociné pour ceux qui veulent voir. Je dois bosser la bande-annonce, mais je l'ai pas trouvé encore. Donc, il y a un clip de la chanson italienne, mais qui permet de voir 3 images, 3 minutes d'images du film. Et bah, c'est mon gros projet. Ça fait des années que je le porte. On arrive à la fin, et là, on fait beaucoup d'avant-premières. Sur mon Facebook, j'indique souvent les avant-premières. On fait les avant-premières avec les actrices. On était avec Baptiste Le Caplain samedi dernier à Paris, avec Albert Delpy. Et puis, c'est un vrai plaisir. Imaginez pour un auteur de BD enfermer 100, 150 personnes dans une salle et leur dire, voilà, tous en même temps, vous lisez la BD. Et vous tournez les pages en même temps et on chope les réactions, les rires ou les sentiments émus. Ça n'arrive jamais en BD. Et je vous assure que quand on est arrivé au bout d'un projet comme ça, ce moment où on se dit, wow, on l'a tenu jusqu'au bout, ça y est, on est arrivé, et de voir les gens rire à des moments où on avait prévu qu'ils riaient, ça fait du bien. De voir des silences de gens qui sont émus, scotchés par ce qui se passe, et puis après les commentaires des gens, enfin, c'est une super expérience.
La sortie est prévue quand?
On ne sait pas encore. C'est-à-dire que c'est un film vraiment indépendant, avec un budget réduit. Je ne sais pas encore si ça va être en fin d'année ou en début d'année prochaine. Pour l'instant, on se concentre sur les avant-premières et on fait exister le film comme ça. Ça nous permet d'avoir des retours et de réfléchir à comment on va le sortir. Mais c'est une aventure différente de la BD, beaucoup plus compliquée. Je dis souvent qu'en fait, en BD, les émotions, elles sont problème, plaisir, comme ça. Et en cinéma, c'est ça. C'est-à-dire que c'est vraiment les gros emmerdements et des grands plaisirs. Est-ce que c'est une règle de la vie, en fait? On est tout le temps, je sais
On va vous souhaiter un grand plaisir surtout,
pas.
un gros succès. Merci beaucoup, Jim.
Merci, merci.
Hein, on va conseiller donc la lecture de votre album, Zoé Carrington, qui vient de sortir il y a quelques semaines, et puis
Ouais.
d'aller voir dès qu'il sera au cinéma. Bel enfant. Merci à vous de nous avoir écoutés. On va se retrouver très vite pour un nouvel épisode de Dans ma bulle. Et puis, bah, si vous voulez continuer à embêter toute la journée avec nous, on a un petit peu plus de 350 émissions en archive. Bonne journée à tous et à toutes.
Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.